Soyez les bienvenus, vous tous, pour ce culte en ce jour de Noël. Amis présents ou amis au loin, nous célébrons ensemble la venue dans le monde de celui qui est la vraie lumière pour tout humain vivant dans ce monde, Jésus le Christ, qui vient nous révéler le visage du Père. Et ce qui nous arrive en ce jour, c'est une douceur qui éveille le cœur à la joie d'être, à la joie de naître. Ce qui nous arrive, c'est que Dieu n'a pas d'autre chemin que nous pour venir jusqu'à nous. Et c'est en nous, au berceau de notre âme, qu'il revient de bercer le Christ. Noël, c'est la vie déposée en nous par Dieu qui espère en nous. Je vous invite à prier. Nous voici, notre Dieu. Nous qui marchons de jour comme de nuit, nous voici pour entendre ta parole. Ta parole qui dépose un air de fête sur la terre désemparée. Alors que ton esprit souffle, que ta parole résonne, que le Christ fasse lever une aurore nouvelle, nous sommes venus pour les accueillir, leur faire place en nous et entrer dans ta présence qui nous bénit. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés du temps de l'Avent-Noël. Restons debout pour la louange. Dieu, toi, Dieu, d'infini et d'éternité, d'inconnu et de puissance, voici que ta parole est déposée en notre humus, à la taille de notre humanité. La voici en notre chair, sous nos yeux, en notre corps, touchée par nos mains, en notre esprit, en notre sens, entendu de nos oreilles. La voici à notre mesure, à notre faiblesse, à notre dimension et en notre temps. La chair de notre humanité, définitivement chair de ta parole. Et tout ce qui blesse l'humanité la blesse, et l'humanité vivante devient ta jubilation. Nos peines, nos guerres, nos haines, nos amours, nos désespoirs, nos allégresses, nos chutes et nos lentes remontées, nos rêves et notre mort et nos avenirs tremblants sont à jamais la chair de ta parole. Ensemencés par toi, de quoi aurions-nous peur? Amen. Alléluia. Et je vous invite à chanter dans le recueil « Nos cœurs te chantent » au cantique numéro 177. « Ô peuple fidèle », nous le chantons en entier.
Thank you.
voici une expression de la volonté de Dieu pour nos vies. Ah, si tu pouvais m'écouter, parole de l'Éternel, ta paix coulerait comme un fleuve d'eau vive, ta justice serait comme les vagues que pousse l'océan, tu serais comme un arbre vert qui donne du fruit en toute saison. Alors, n'entends-tu pas? Amen. Nous nous recueillons chacun et ensemble, c'est le temps de la prière de confession. Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est de naissance dont tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine. Et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de notre cœur. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête. Notre envie de vivre dans la foi et nos résistances à croire. Notre fin de sens et nos incohérences. Notre soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi. Dieu notre Père, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de l'Éternel. Aucune existence n'est inutile, aucune n'est abandonnée à la laideur, aucune n'est délaissée dans sa souffrance, aucune n'est pitoyable. Aucune n'est destinée au néant, aucune n'est figée dans la médiocrité, aucune n'est enterrée, puisque toute existence humaine est l'espace choisi par Dieu pour y faire sa demeure, puisque Dieu, qui est de toute éternité, par grâce et par amour, a décidé d'habiter dans le temps et dans la chair de l'existence humaine. Amis, frères et sœurs, en nous, en Christ, sa grâce coule d'abondance et nous devenons à son image et à sa ressemblance, ses enfants. Et sur cette merveille se fonde notre entière espérance et notre entière confiance. Alléluia. Je vous invite à chanter au cantique 173, Nos cœurs te chantent. Et avant de lire, nous prions. Éternel, en Jésus le Christ, une grande lumière s'est levée sur le monde entier. Maintenant, par ton esprit, éclaire les Écritures que nous allons lire. Qu'elles deviennent ta parole, lumière sur nos chemins, lumière pour nos présences et nos actions en ce monde. Amen. Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié : c'est de lui que j'ai dit : celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Fils unique qui est sur le sein du Père. Eh bien voilà, c'est le culte de Noël, et cette année, sans récit de naissance de Jésus, sans berger, ni ange, ni mage, sans étoile, ni crèche, sans Marie et sans Joseph, même s'il y en a eu quelques échos dans un cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Peut-être chez vous y a-t-il une crèche ? Peut-être avez-vous lu hier soir ou ce matin le récit de l'évangile de Luc ou celui de l'évangile de Matthieu ? Mais c'est avec l'évangile de Jean que nous méditons maintenant. Pas de récit, mais un poème. Pas de détails de lieu ou d'époque, mais un commencement. Et si nous cherchons une naissance, eh bien, dans le prologue, nous en trouvons au moins deux. Mais c'est très bien. C'est très bon, un Noël avec l'évangile de Jean. Ni mieux ni moins bien qu'avec Matthieu ou Luc, hein. Mais c'est très bien parce qu'ainsi, Noël ne se trouve pas concentré dans une seule forme, mais déployé pour plus d'ampleur, de variation, de résonance. C'est très bien parce qu'ainsi, nous ne sommes pas concentrés sur un seul sens de Noël, la naissance de Jésus de Nazareth, mais nous sommes également convoqués, et sans transition, à l'interprétation, à la quête d'un sens autre que celui d'un anniversaire de près de 2 millénaires. En effet, il est question de parole. Dès le commencement, commencement de l'évangile, commencement de la lecture, commencement du sens. La parole, dans d'autres traductions que vous connaissez peut-être, c'est le mot « verbe » qui est employé. Au commencement était le verbe. Parole ou verbe, en général avec des majuscules, manière pour les éditeurs des Bibles de signaler en gros caractères qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle parole ou verbe. Parole ou verbe traduisent un terme grec qui ne nous est pas inconnu. Logos. Nous le connaissons parce qu'on le trouve dans tous les termes avec « log », dialogue, prologue, et aussi ou alors avec logie, géologie, biologie et logique. Car justement, logos ne signifie pas mot, il est beaucoup plus vaste, il désigne la parole et ce qui la constitue comme parole. Et ce qui constitue une parole comme parole, c'est la pensée, le sens, la raison qui résonne. Logos, ça touche à la grammaire qui fait qu'une suite de mots devient compréhensible, qu'un ensemble de quêtes, d'enchaînements, de données constitue une science et que le monde dans lequel nous sommes nés fait sens. Logos est ainsi posé, installé, par l'évangéliste comme au commencement. Et ce commencement n'est pas inscrit dans une chronologie, il est du même ordre que le commencement de Genèse 1 auquel il fait écho. C'est un commencement qui advient en celui ou celle qui comprend ses textes, c'est-à-dire qui les prend en elle ou en lui pour en faire le fondement de sa compréhension du monde, le socle de sa lecture et de son interprétation de son existence dans le monde. C'est cela, le commencement. Ce logos, cette parole au commencement, c'est donc ce qui rend l'existence compréhensible, ce qui lui donne sens dans un monde qui lui aussi a pris sens, selon cette parole, ce qui rend l'existence vivable. Et cela, Eh bien, le poème de Genèse 1 le chante en disant « c'est bon ». Tov en hébreu. Et cela est bon, pas dans un sens moral de ce qui est bien par rapport à ce qui serait mal, mais dans le sens du bon parce que c'est ce qui est ajusté à la vie. Et pas la vie d'une seule personne, ni d'une seule espèce, mais ajusté à la vie de tous les vivants, de tout ce qui vit. Cette parole, le prologue confesse, alors, quel était Dieu, et en même temps, qu'elle était auprès de Dieu. Ce n'est pas très précis. Il faudrait savoir. Eh bien non, on ne saura pas. Jean est imprécis comme les poètes le sont, qui laissent flotter, danser, se rencontrer des mots sans la contrainte des impératifs de définition ou de savoir. Les poètes qui laissent la place aux lecteurs qui peuvent entrer dans leurs poèmes pour continuer à faire jouer les mots entre eux à leur manière de lecteur. Cette parole construit la grammaire d'un monde permettant d'y vivre sans être disloqué par le non-sens, par l'absurde, par le chaos. Cette parole est Dieu, est auprès de Dieu, vient de Dieu, ou pour le dire encore autrement, elle est parole créatrice. Parole créatrice à laquelle sont articulés d'autres mots, particulièrement, vous l'avez entendu, le mot lumière et le mot vie. Deux mots qui rendent également compte de l'action de cette parole qui éclaire et qui illumine, et alors on y voit clair. On voit les reliefs, les chemins, les dangers. On voit qu'il y a des ténèbres, mais l'on peut s'orienter, diriger, organiser, donner forme à son existence dans le monde ainsi éclairé, ainsi orienté. Et ce n'est pas un monde parfait, idéal, rêvé. C'est le monde dans lequel les ténèbres résident encore là où elles sont puissantes. Les ténèbres, c'est-à-dire le chaos, la confusion, la distorsion, le refus de la pensée subtile qui différencie, le refus de la poésie qui indique des possibles complètement nouveaux. Ce n'est pas un monde idéal, car cette parole toute divine qu'elle est ne s'impose pas, et parce qu'elle peut ne pas être perçue comme une lumineuse évidence. C'est donc un monde enténébré que celui dans lequel les paroles humaines n'ont plus de sens, ni plusieurs sens, mais n'importe quel sens, nous éprouvons tous cela. Des paroles qui peuvent être retournées à l'envers de leur signification commune, réquisitionnées pour être rétrécies, capturées pour être vidées de leur sens compris par tous, pour être investies d'un autre sens qui laisse désorienter celles et ceux qui les entendent. Peut-être avez-vous lu 1984 ? Et le monde ainsi façonné, ainsi enténébré, n'est plus tov, n'est plus bon pour tous. Il peut l'être seulement pour quelques-uns et en apparence seulement. L'Évangile, lui, insiste sur le logos, parole, verbe, pour parler de création, de naissance, de vie. Et cela nous rend attentifs à nos propres paroles, paroles humaines, aux usages et mésusages des paroles humaines et ce que ces usages et mésusages révèlent de la pensée, de la compréhension, de l'intelligence du monde et de sa grammaire, de celles et ceux qui parlent. Et en même temps, le prologue nous invite à une mise en parole, parole pensée, de l'existence, de l'avenir, des possibles du monde. Et cela, de questions en doute, d'incertitude, en éclairage, et surtout, en reconnaissance, qui est bien ce que permet la lumière. La reconnaissance de ce qui est, de ce qui est là, de qui est là, pour nommer, pour aviser, pour poétiser, la reconnaissance comme exploration pour découvrir, inventer, essayer, et la reconnaissance comme gratitude de ce qui a été donné, transmis, reçu, permis. Il arrive alors que la parole soit saisie, non pas capturée ni enfermée, mais reçue, discernée, entendue, comprise, comme on peut dire familièrement « oui, j'ai bien saisi ce que tu veux dire ». Au travers de paroles humaines, de gestes, de sensations, d'ébranlements intérieurs, d'illuminations, cette parole souffle un « c'est toi et c'est bon » qui devient le point d'appui, le lieu de ressource de l'être. Et alors il y a naissance. La personne devient enfant de Dieu, née de Dieu et non d'un désir humain, née d'esprit et non de la chair, née de la parole créatrice et non d'un projet ou d'une circonstance. Une naissance dont Jésus, deux chapitres plus loin, dit à Nicodème qu'elle est naissance d'en haut ou naissance de nouveau, naissance seconde chronologiquement, mais naissance essentielle, comme une libération, comme une vocation. Noël, la nativité, c'est qu'il nous est donné à nous de naître et de devenir enfants de Dieu, cette extrême et inaltérable dignité. Et nos paroles sont appelées à en témoigner, des paroles humaines puisant à la divine parole pour communiquer à autrui un éclat, un écho de l'appel à naître. Et ce n'est qu'ensuite, dans le poème, qu'il est question de la deuxième naissance après la nôtre, qu'il est question de ce que nous appelons Noël, mais sans aucun vocabulaire de naissance. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Plus exactement, elle a dressé sa tente parmi nous. La parole est devenue chair. Eh bien oui, Jésus est vraiment né. Mais Jean ne dit rien de plus de cette naissance que ce devenir chair, devenir humain, un devenir délibéré, qui signale avec force l'initiative qui n'est pas celle des humains, mais celle de Dieu. Et c'est-à-dire que la parole ne marchande pas, ne balance pas, ne pose pas de conditions. Et cette antécédence et cette extériorité radicale empêchent de mettre la main sur la divine volonté de mettre la parole au monde dans l'humanité. Comme si ce devenir de chair correspondait à la réception de la parole qui fait naître les enfants de Dieu au verset précédent. Comme si elle la rendait à la fois plus sensible et plus recevable. Comme si la parole était devenue chair pour que les humains puissent devenir enfants de Dieu. Car la construction du poème permet de lire la précédence du devenir enfant de Dieu par rapport au devenir chair de la parole, à la fois comme l'affirmation qu'avant le devenir chair de la parole, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, il était déjà possible de devenir enfant de Dieu, et comme si le devenir enfant de Dieu était le but du devenir chair de la parole, les deux n'étant pas exclusifs l'un de l'autre. Nous célébrons Noël avec l'évangile de Jean, c'est-à-dire la possibilité, la permission, l'autorisation, le don de naître à nouveau, de naître d'en haut, de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes libérés, délivrés des injonctions, des identités fixées par le monde ou convoitées par chacun. Et nous célébrons Noël parce que cette bonne nouvelle est hautement partageable, parce qu'elle est éminemment désirable. Nous ne fêtons pas un événement passé qui a eu lieu à une date absolument inconnue. Nous célébrons un don, un élan, un avenir, un monde nouveau dans et malgré le réel enténébré de ce monde. Et nos paroles sont appelées à en témoigner, des paroles puisant à la parole pour communiquer à autrui un éclat, un écho de l'appel à naître. avec l'évangile de Jean. L'émotion de Noël n'est pas celle des récits familiers qu'on entend parfois depuis l'enfance, ni celle des souvenirs de beaux Noël passés, ni celle d'une fête rassemblant la famille et les proches, toutes émotions tout à fait légitimes. Mais elle est dans l'évangile de Jean, l'émotion de la palpitation d'un désir de vivre qui est l'écho d'un inlassable appel à devenir vivant. Donner la vie et la donner en abondance. L'horizon et le programme du prologue sont repris par Jésus plus loin dans l'évangile au chapitre 10 quand il dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La vie en abondance, ou la vie éternelle, ou la vie d'enfant de Dieu. Il n'y a toujours pas de définition unique et précise, mais des images, des échos, beaucoup de poésie pour évoquer la vie renouvelée par la parole. Devenir enfant de Dieu est présenté par le prologue comme une espérance déjà en cours d'accomplissement, par cette parole qui a pris chair parmi nous, parmi nous, sans plus de précision, toujours. Mais c'est non seulement un « nous » comme collectif, et dont nous ne connaissons pas les délimitations, le « nous » peut-être de toute l'humanité dans laquelle la parole s'est incarnée en Jésus de Nazareth. Mais c'est aussi un « parmi nous » comme « en nous », en chacun de nous, berceau, porteur de la parole, chacun vivant, chacun lumineux, chacun capable d'ensemencer la vie dans la vie, capable de venir au monde à nouveau tout au long des jours, chacun capable de se réjouir que d'autres soient aussi bénéficiaires de ce don. Et nos paroles sont appelées à en témoigner, des paroles puisant à la parole pour communiquer à autrui un éclat, un écho de l'appel à naître. Nous célébrons Noël pour son actualité. Noël, c'est aujourd'hui, et pas parce que le calendrier indique que c'est le 25 décembre. Nous pourrions tout aussi bien le célébrer le 15 juin. Nous célébrons aujourd'hui la grâce et la vérité venues au monde qui nous rendent vivants, qui nous rendent humains, véritables. Alors, réjouissons-nous. Bonne naissance à tous. Amen.
Thank you.
vous invite à vous lever. Béni sois-tu, Père, toi qui nous as donné ton Fils, vraie lumière, qui venant dans le monde illumine tout être humain. De sa plénitude, tous nous avons reçu grâce sur grâce, et par lui tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Et voici que maintenant ce don et ce pouvoir nous sont à nouveau offerts. C'est pourquoi nous célébrons la grandeur de ton amour, nous te louons et nous te glorifions, et nous chantons au cantique 183, « Ô quel éclat sur nos matins », nous le chantons en entier.
C'est pour nous rendre plus humains et plus fraternels que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le repas, en disant : Cette coupe et l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez.
Je vous invite à prier. À la table où tu nous invites, notre Dieu, Nous avons déposé un peu de pain et un peu de vin. Ils sont les signes de notre vie quotidienne. Par ton esprit, qu'ils deviennent aussi les signes d'une vie nouvelle et de la présence, de la venue parmi nous de Jésus, ton Fils, notre frère. Voilà pourquoi nous sommes ici devant toi, Père, et tout rempli de joie et de reconnaissance, nous nous souvenons de Jésus le Christ. Donne-nous d'entrer dans ton bonheur à l'image de celui que tu nous as envoyé, notre Sauveur, notre frère. Sur lui, ton esprit a reposé et il a été parmi nous cette lumière qui réconforte, qui vivifie, qui réjouit. Alors nous te remettons celles et ceux qui sont dans l'ombre, qui ne trouvent pas la lumière, et celles et ceux qui vacillent sous le choc d'un échec, d'une séparation, d'un deuil ou d'une maladie. Permets qu'un goût de naissance rejoigne celles et ceux qui chancellent dans la confiance en eux-mêmes. Nous portons dans notre prière les mères et les pères d'Ukraine, de Russie et d'ailleurs, qui pleurent leurs enfants tués, blessés, disparus. Les mères et les pères d'Iran et d'Afghanistan, qui rêvent et agissent pour un avenir nouveau pour leurs enfants. Nous portons dans notre prière celles et ceux qui se soucient de leurs frères et sœurs, de famille et d'humanité. Béni sois-tu pour celles et ceux qui rendent témoignage au Christ vivant, en répondant aujourd'hui encore à l'appel de la vie. Père, que toute joie soit partagée, que tout amour soit multiplié, que toute confiance soit augmentée, que l'espérance soit ravivée. Et voici les nôtres. Nous te les remettons afin que l'impossible pour nous devienne possible par toi et en toi. Nous élargissons notre prière dans la communion avec tous celles et ceux qui te reconnaissent comme Père des humains. Et nous te disons à voix haute ou dans le secret de notre cœur, la prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Tout est prêt. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où le Christ nous donne nourriture. Voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin, mais que lui-même distribue. Venez, tout est prêt.
Je vous invite à venir tous dans le cercle de la communion, même si vous ne souhaitez pas communier, même les enfants, et vous pouvez communier. C'est un cercle ouvert à tous. Il témoigne de cette égale dignité de tous les enfants de Dieu et de tous ceux qui sont appelés à le devenir. Venez. Oui, il faut passer entre des rangs pour que ce soit un petit peu un cercle. Allez, allez. Non, Michel, c'est trop près, là. Il faut mieux reculer un peu, oui, au niveau de Bruno, voilà. Mais voilà, c'est... Gilbert, rentre dans le cercle, voilà. Chacun a une place, c'est sa place d'être humain. Alors je vous invite à saluer l'être humain à droite et l'être humain à gauche. Si vous ne connaissez pas son nom, c'est l'occasion de le savoir.
Thank you.
notre Dieu. Maintenant, tourne nos regards vers les êtres sans parole, vers ceux qui sont sans voix. Par le pain et le vin partagés, inscris au plus profond de nous le respect pour tous les êtres vivants et garde vif en nous le sentiment de la dignité de tous. Pour celles et ceux qui sont dans l'obscurité, donne-nous d'ouvrir une fenêtre sur le jour comme une trouée d'amour. Mets dans nos cœurs et dans nos bouches la parole qui relève et qui sauve, les mots risqués qui ouvrent un commencement nouveau et signent le temps de Noël. Amen.
Je vous invite à regagner vos places dans la joie du Christ vivant. Quelques annonces à partager pour ce culte de Noël. Si vous avez apporté quelque chose pour la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, eh bien, merci de les déposer au pied de cet escalier. Là, il y a la chaise avec déjà quelques paquets. Donc, vous pourrez le déposer tout à l'heure parce qu'il n'y avait personne pour assurer la permanence aujourd'hui. Et à ce sujet, j'ai affiché dans le temple une nouvelle liste de produits dont l'épicerie solidaire a particulièrement besoin en ce moment. Si vous pouvez voulez la consulter pour dimanche prochain, puisque cette collecte a lieu tous les dimanches. Pour aujourd'hui également, et bien comme c'est le jour de Noël, et bien nous entrons dans le temps des cantates de Noël, puisque l'association des cantates nous propose cette année 6 cantates, aujourd'hui, demain, après-demain, le 1er janvier et le 6 janvier. Aujourd'hui, ce sera à 21h, c'est un horaire inhabituel pour les cantates, mais ce sera à 21h la cantate BWV 110, je ne dirai pas le titre, vous pouvez le regarder sur les petits flyers qui sont sur la table au fond du temple. Demain, lundi 26 et après-demain, mardi 27, les cantates seront données ici à 19h. Je rappelle que l'entrée est libre à tous. Et ensuite, ce sera donc le dimanche 1er janvier, dimanche prochain. Avant dimanche prochain, dans la semaine, il n'y aura pas de pause spirituelle jeudi. Donc, ce rendez-vous hebdomadaire sautera à la semaine suivante. Je serai en congé cette semaine. Et dimanche prochain, donc, nous nous retrouverons 1er janvier. Mais bon, vous êtes bienvenus le 25 décembre, donc c'est aussi possible de venir le 1er janvier. Culte à 10h30, et à l'occasion de ce culte, Antoine Vardon recevra le baptême. Donc nous pourrons aussi l'entourer, l'accompagner dans cette démarche importante pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire? Je ne crois pas. On se redira Joyeux Noël tout à l'heure en partant. C'est donc le moment de l'offrande, une offrande de Noël, donc une offrande joyeuse, une offrande libre d'enfants de Dieu. Et pendant cette offrande, je vous invite à vous lever. Nous chanterons au cantique 181, « Vous les fleuves, les rivières », nous le chanterons en entier. Mais on ne s'est pas mis d'accord, Fred. Le 181, on ne va pas chanter l'antienne à chaque fois. Pas du tout, même pas la fin. D'accord, donc sans l'antienne, seulement les 3 strophes. vous invite à rester debout pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier cantique de ce culte au numéro 171, ces jours de joie, jours merveilleux avant la bénédiction. Vous allez sortir, retourner dans la ville, dans vos vies, alors dites-leur. Dites-leur à ceux que vous rencontrerez. Dites-leur d'où souffle le vent. Dites-leur cette voix du dedans, plus tenace que la soif, le fardeau et la haine. Dites-leur l'appel de Dieu, ce murmure de tendresse dans la vallée des larmes. Dites-leur d'où souffle le vent et comment l'espérance nous est née. Cette voix du dedans, l'appel du large, paix sur la terre déchirée, gloire à Dieu pour l'éternité. Nous chantons. Amis, frères et sœurs, Jésus pourrait être né 1000 fois à Bethléem. Dieu attend que le Christ naisse en chacun de nous. Et que le Dieu de l'espérance fasse renaître en nous cette espérance porteuse de vie et de bonheur que le Christ a donnée au monde. Amen.